Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon vendredi, j'espère que vous allez bien. On a pu voir au cours des dernières heures les toutes premières images de la bande-annonce du film Arlette, réalisé par Marie-Lou Wolfe sur un scénario et des dialogues de Marie Vien. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a Marie-Pierre Morin qui joue le rôle principal de ce film-là, Arlette, qui se déroule dans le milieu politique. Le film prend l'affiche le 5 août. Et ça va être cette journée-là, le 5 août 2022, où on va voir si le public québécois donne sa réhabilitation, sa rédemption, son pardon ultime à Marie-Pierre Morin, qui a vraiment vécu une sorte de chemin de croix. Elle est montée très haut, elle est descendue très bas. Et il y a toutes sortes de métaphores religieuses qu'on pourrait utiliser. Elle a dit son mea culpa, mea maxima culpa. Le 5 août, on va savoir si les Québécois lui donnent l'absolution. Et moi, j'ai très hâte de voir ça et je sens que je vais pousser un très intéressé. Ben voyons donc.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio.
Tous les vendredis, elle vient commenter l'actualité. Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Québec et qui est aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Karine, bonjour.
Bonjour, Sophie.
Quand on voit toutes les discussions qu'il y a au cours des derniers jours sur ce qu'on appelle maintenant le « téton gate », cette femme à Québec qui était dans un parc, qui se promenait les seins nus, il y a eu une intervention policière. Selon moi, toute cette histoire-là a été vraiment, vraiment beaucoup trop exagérée. C'est selon moi quelque chose d'assez anecdotique. Mais toi, il y a quelque chose qui t'inquiète beaucoup plus que de savoir si on peut se promener ou pas les seins nus dans les parcs.
Oui, effectivement. Moi, je suis une grande marcheuse. Je fais de la course aussi, course à pied. Puis j'adore aller me promener dans les boisés. Il y en a plusieurs autour de chez nous. Il y en a plusieurs dans la région. Mais ce que je remarque, c'est que j'ai une crainte d'y aller seule. J'y vais jamais seule, sérieusement. Je sais pas, Sophie, pour toi, mais quand j'en parle avec des femmes dans mon entourage, je suis loin d'être la seule. Là, puis quand je rencontre une femme qui marche seule ou qui court seule dans les bois, je me dis, elle n'est pas peureuse. Puis, tu sais, je trouve ça vraiment épouvantable d'avoir ce réflexe-là, d'avoir cette peur-là dans notre société en 2022. Tu sais, ça existe encore, ça existe depuis que je suis toute petite. J'ai grandi, ça n'a pas changé. Puis, je pense que ça va toujours exister, malheureusement, cette crainte-là. Bon, parce qu'on est moins forte physiquement que. Les agressions, bon, c'est souvent des hommes, vont souvent s'en prendre à des femmes, évidemment, et dans des coins plus isolés, comme des boisés, des sentiers, bon, en montagne et tout ça, ben c'est sûr que quand notre imagination s'emballe, là, moi, j'aurais juste pas de fun là, à marcher ou à courir seule. Là. Je vais juste imaginer qu'il y a quelqu'un qui va sortir derrière moi pour m'attaquer.
Oui, et ben écoute, moi c'est la même chose. Moi j'ai toujours dit, comme féministe, même si on a 100% d'égalité salariale, même si la femme, le premier ministre est une femme, même si, mettons, tous les ministères sont occupés, tous les postes de ministères sont occupés par des femmes, même si on arrive à tout régler les problèmes d'égalité homme-femme, il va toujours rester ça. Il va toujours rester que la différence, même si tous les pompiers sont des pompières, que tous les policiers sont des policières, il va toujours rester cette inégalité fondamentale. Mettons, entre Richard et moi, Richard, il peut se promener à 2h du matin, il n'aura pas peur. Et moi, même en plein jour, si je me promène, mettons, dans une ruelle pour aller à l'épicerie, je vais avoir peur. Et cette peur-là...
On regarde en arrière.
On regarde tout le temps. Ben écoute, moi, quand je me promène, je veux dire, j'ai mon trousseau de clés à la main. J'ai mon trousseau clé à la main, ou des fois, je fais semblant d'être au cellulaire avec quelqu'un, parce que je me dis, ben, si quelqu'un veut m'attaquer, ben, je veux dire, il s'attaquera pas avec quelqu'un. C'est niaiseux, mais il s'attaquera pas avec quelqu'un.
La même chose.
Oui! Et comment ça se fait qu'on est encore? Mais oui. Et tu voulais me parler parce qu'il y a, un prédateur sexuel qui sévit à Québec, et ça, c'est très inquiétant.
Oui, ben en fait, la Sûreté du Québec demandait l'aide de la population hier. Ça fait quelques fois qu'ils le font là, pour retracer un homme qui aurait... On dit qu'il y aurait peut-être témoin d'une agression sexuelle qui est survenue le 1er avril à la station touristique du Chêne. Là, c'est connu un peu partout au Québec. Là, c'est un endroit très touristique. Et la femme se promenait dans le coin, imagine, à midi. On parle pas de minuit, là, on parle en plein jour, là, tu sais. Donc, elle se promenait, puis elle s'est fait attaquer, agresser sexuellement, puis là, l'individu n'a pas été retracé à ce jour. Et, tu sais, ça me faisait dire, ben voilà, tu sais, c'est pas juste de la paranoïa, c'est pas juste mon imagination, ça existe, ça arrive, tu sais, c'est pas... Sérieusement, j'ai vraiment pas envie de vivre ça, ne serait-ce qu'une fois, là, tu sais, je pense que tu restes marqué pour le restant de tes jours après, c'est épouvantable, là. C'est un vrai cauchemar, là, vivre une chose comme ça. Puis de prendre le risque, malheureusement, là, ça fait en sorte qu'on se restreint. On se restreint, puis on est toujours stressé un peu, on est toujours craintif. Tu sais, tu parlais du trousseau de clés, là. Moi, c'est une policière de la Sûreté du Québec qui m'avait donné ce truc-là, de mettre une clé entre deux doigts, là, entre le majeur puis l'index, au cas où que je me fasse attaquer. Puis là, c'est au point que je me suis dit, ça me frustre tellement, ça, que je m'empêche de faire plein de choses comme ça, puis que je vois, tu sais, mon chum, puis des gars autour de moi qui s'empêchent pas, là, comparativement aux femmes, que je me suis dit que je voulais me prendre des cours d'autodéfense.
Ça fait
super longtemps que je veux faire ça. Oui, ben oui, parce que je me dis, là, c'est assez, là, faut que je freine ça. Puis je sais pas, tu sais, à quel point je vais être brave après d'aller me promener seule, mais au moins, je vais me donner des outils que si ça m'arrive, je vais être capable de faire quelque chose.
Oui, et tu vois, tu parles de ça. Tu parles de ça ce matin, et puis quand je regarde la mosaïque du Journal de Montréal, Journal de Québec, et cette histoire absolument sordide en France, attends, je vais le retrouver pendant que je te parle, je me souviens plus c'est dans quelle région de la France. Je pense que c'est à la frontière entre la France et la Belgique. C'est le procès qui commence d'un gars qui a sévi pendant... Oui, le procès du violeur de la Sambre. Il s'appelle Dino Scala. 30 ans, pendant 30 ans, ce gars-là, qui est un père de famille, il a 5 enfants, pendant 30 ans, il a violé des femmes, des victimes qui allaient de 13 à 48 ans, et c'était toujours le même modus operandi, c'était toujours à côté des boisés, c'est pour ça que j'ai pensé à toi quand j'ai vu cette histoire-là, toujours la même chose, et c'était toujours à l'aube, en hiver, près de la voie publique, le mode opératoire est similaire. L'homme les saisit, les femmes par derrière, les étrangle avec l'avant-bras ou un lien, les traîne à l'écart, les viole. Écoute, il a fait on ne sait trop combien de victimes pendant 30 ans. Et quand il a été arrêté par la police, il dit « Ben moi, j'en ai toujours voulu aux femmes parce que j'ai toujours été, je suis toujours arrivée numéro 2 dans ma vie professionnelle, dans ma vie intime. » Et je finis là-dessus, Karine, il dit « selon des experts psychologiques, sa jouissance venait plus de la domination d'autrui que de l'acte sexuel. » Et on le dit souvent, les gens, les spécialistes en agression sexuelle le disent, c'est pas un crime sexuel à la rigueur, c'est un crime de pouvoir, le viol.
Oh, c'est épouvantable. Puis là, tu dis, lui, il a sévi pendant toutes ces années-là. C'est clair que la personne qui a fait l'agression, là, a dû chaîner, là. Est encore en liberté, donc tu sais, c'est ça qui recommence, là. Tu sais, ça s'arrête pas après une agression souvent, là. C'est des gestes répétitifs, ça se passe sur plusieurs années. Fait que, en tout cas, j'espère qu'ils vont le retrouver. Mais tu sais, tout ça pour dire que c'est vraiment frustrant.
Oui, c'est frustrant. Puis tu vois, il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment, toutes les deux, des gars. Qui prennent conscience, et c'est important de parler de ce dont on parle aujourd'hui, Karine, de faire réaliser à tout le monde que on aura beau avoir fait tous les progrès, on avoir beau, tu sais, mettons les femmes d'affaires, tu sais, je veux dire, on aura beau, nous, comme femmes, prendre notre place partout, dans toutes les sphères de la société, le jour où on va vraiment pouvoir dire on vit dans une société égalitaire, c'est le jour où on n'aura plus peur. Le jour où on n'aura plus peur, là, on va avoir gagné quelque chose. Mais tant qu'il y a encore cette peur-là, tu sais, je veux dire, moi, j'ai deux belles filles, puis j'ai un fils, ben, je m'inquiète pour mes deux belles filles, puis je sais que mon fils, il va avoir plus un sentiment de sécurité que mes deux belles filles de 23 puis de 26 ans. Et ça, c'est très triste.
Oui, puis quand on en parle avec des gars, tu sais, on leur fait réaliser cette crainte-là, parce qu'eux l'ont pas, ils la ressentent pas, puis ils pensent pas à ça. Ils ont pas cette, tu sais, ce réflexe-là toujours de regarder derrière leur épaule, puis tu sais, nous autres, on l'a, je pense pas être la seule, là.
Non, mais non.
On vérifie tout le temps un peu nos arrières, et puis ça leur fait réaliser qu'effectivement, c'est injuste, puis je vois pas le bout, moi, de ça, là. Je vois pas... À quel moment, tu sais, à moins qu'on se dise tout, on y va, on les investit, les boiser, mais je vois pas comment ça peut se faire dans la réalité, là, dans le concret.
Oui, puis il faudrait investir les boiser, les ruelles.
Oui.
Écoute, c'est... Ben, écoute, même, je te dirais simplement, quand il y a des gens qui doivent faire des employés de service, là, le câble, l'électricité, le téléphone, peu importe, là, quand il y a quelqu'un qui doit venir à la maison, qui doit venir pour installer quelque chose ou faire des travaux dans la maison, moi, je suis jamais toute seule. Je demande toujours à Richard d'être là. Il est hors de question que je me retrouve toute seule avec un homme. Dans ma maison. Je ne me sens jamais en sécurité, donc Richard est tout le temps là.
Ben moi, d'autant plus qu'on a vécu une anecdote pas très drôle quand j'étais petite, très petite. Ma mère était à la maison sur la rue Sud de Québec, puis il y a un individu qui faisait des agressions sexuelles dans le quartier. Et imagine-toi, il est entré chez nous en disant qu'il venait vérifier l'électricité. Oui, il est descendu avec ma mère en la tenant par le bras, et c'est moi qui l'ai sauvé. J'avais 4 ans. J'avais envie de pipi. J'ai frappé dans la porte comme une déchaînée parce qu'il l'avait barré. Et puis là, il y a eu peur, évidemment. Mon petit frère s'est réveillé parce que je cognais. Et là, ma mère a pu s'en sortir comme ça parce qu'elle y aurait pensé. C'est sûr, là, il y en avait fait vraiment plusieurs agressions. Alors, tu vois, même pour tu sais, des gens qui viennent chez nous, moi aussi, j'ai cette crainte-là. Puis, tu sais, je sais que ça se peut et que ça arrive. Alors, je pense qu'il faut être prudente là-dessus aussi, malheureusement.
Karine, je capote. Mais je veux dire, ta mère devait être complètement traumatisée, puis toi, du haut de tes 4 ans, t'as dû aussi avoir le cœur qui se démenait.
Ben moi, c'est après, tu sais, que j'ai réalisé plus tard, parce que sur le coup, j'ai rien vu aller, là. Moi, je l'ai sauvé comme ça, là, parce que je suis arrivée par hasard, là, tu sais. Des fois, la vie fait bien les choses, ben là, cette fois-là, ça a été vraiment un super beau hasard, là, parce que... ça, évidemment, lui, il pouvait pas continuer avec le bébé qui pleurait, l'enfant qui vargeait dans la porte. Il dit non, ça marchera pas.
Fait incroyable. Quelle histoire. Ben écoute, bravo d'avoir sauvé ta maman à l'âge de 4 ans. On en parle de cette façon-là, mais c'est un drame épouvantable. Ben écoute, je sens que même toutes ces années plus tard, c'était encore traumatisé et ébranlé de ça. Et ta maman, j'imagine aussi, quelle histoire.
Oui.
Désolée de passer à un autre sujet, Karine, mais ça va pas bien. L'économie va pas bien. C'est très inquiétant ce qui se passe pour le portefeuille des Québécois, surtout avec notre niveau d'endettement. On se prépare à des lendemains assez difficiles.
Oui, ben tu sais, la Banque du Canada, bon, déjà le taux d'inflation qui a été relevé, tu sais, on a des signes comme quoi l'économie, là, ça va vraiment moins bien. On s'en doutait que ce serait comme ça, tu sais, après toutes les années de pandémie, les faillites, là, ça fait juste commencer, là, on va en voir plein. Puis il y a des gens qui se sont beaucoup endettés pour l'achat, notamment d'une propriété. Et c'est ce qui inquiète la Banque du Canada parce que ça cause beaucoup d'endettement chez les ménages canadiens. Tu sais, dans certains cas, là, les gens ont dit que ont payé leur propriété 50% de plus en moyenne depuis le début de la crise sanitaire, entre autres en banlieue de Toronto puis de Montréal. Souvent, les gens vont prendre pour pallier là, au fait que ça leur a coûté très cher, ils vont prendre un prêt hypothécaire à taux variable. Mais dans la situation actuelle, un taux hypothécaire à taux variable, c'est vraiment pas une bonne idée. Parce que ça, si les taux montent, comme on prévoit que ça va se passer, ben là, à ce moment-là, les gens, ça va leur coûter vraiment plus cher à chaque mois parce que leur taux va augmenter. Tandis que quand c'est un taux fixe, ben ça bouge pas pour le nombre d'années pour lequel on l'a signé. Alors ça, ça inquiète la Banque du Canada qui dit que les gens vont avoir de la misère finalement à s'en sortir. Je lisais Michel Gérard ce matin qui disait attachez vos sucres.
Et boy, c'est pas rassurant le texte de Michel ce matin.
Non, vraiment pas. Tu sais, il dit le pays peut être à l'aube d'une crise financière. Puis honnêtement, quand j'écoutais le point de presse de la Banque du Canada hier, c'est ce que je pensais. Je me disais, hey, écoute, on a tellement de signes qu'on s'en va vers là. Puis c'est inquiétant, tu sais. Puis quand on regarde autour de nous, on voit que tu sais, il y a des gens qui vivent clairement au-dessus de leurs moyens, tu sais, qui ont des maisons beaucoup trop chères, qui voyagent à crédit, qui achètent toutes sortes de choses à crédit. Mais là, ça peut faire quand les taux d'intérêt sont très bas. Mais là, quand on est dans la tendance actuelle où les taux augmentent, là, à une vitesse quand même effrayante, là, tu sais, le taux était de 0,25% au début de l'année. Là, maintenant, le taux directeur, là, il est à 1,50. Puis, selon la Banque du Canada, il va passer à 3%. Parce qu'eux, ils ont besoin de lutter contre la forte inflation là, qui sévit présentement. Donc, imagine-toi tous ces gens-là qui se sont super endettés, entre autres pour l'achat d'une propriété. Ça fonctionnera pas, là. Ils seront pas capables de rembourser leurs dettes. On va voir des faillites en série. On va voir aussi des reprises de possession, des ventes de feu. C'est aussi ce que Michel Girard écrivait. Là, on peut s'attendre à voir ce genre de scénario-là qu'on n'avait pas vu depuis un sacré bout de temps parce que l'économie se portait quand même très bien. Alors, tu sais, tout ça, c'est des lumières rouges qui s'allument. Je suis pas certaine qu'il y a beaucoup de gens, tant de gens que ça, qui réalisent ce qui s'en vient. Tu sais, le rouleau compresseur, là, il est parti, puis il s'en vient.
Ouais. Écoute, je vais te lire un extrait. Je vais te lire un extrait de la Bible, Apocalypse 16:13. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. La raison pour laquelle je te dis ça, c'est qu'on a eu une pandémie. Une pandémie. Après ça, on a la variole du singe. Et là, on va avoir une crise économique. Donc, on a eu, c'est comme si on avait, tu sais, les sept cavaliers de l'Apocalypse, là. La prochaine affaire, ça va être, il y a des grenouilles qui vont tomber du ciel. Je veux dire, c'est comme, ça, on peut-tu arrêter, on peut-tu avoir, s'il vous plaît, une liste de bonnes nouvelles? C'est comme si on avait eu, si on revient dans l'histoire, la grippe espagnole, donc l'équivalent de la pandémie. Après ça, il y a la guerre en Ukraine, donc un petit peu comme si on revivait, évidemment dans toute proportion gardée, la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, on va revivre quoi? Le crash de 29? Écoute, je suis complètement découragée quand j'ai lu le dossier dans le journal ce matin et le texte de Michel Girard.
Oui, et tu sais, quand on va mettre de l'essence, moi, sérieusement, je ne vais plus faire le plein. J'attends jamais, parce que ça me déprime complètement là, de mettre autant d'argent dans de l'essence, là, de jeter ça dans la fenêtre. Et puis, tu sais, quand on fait l'épicerie, je veux dire, tout augmente. Nos salaires ne suivent pas, évidemment. Là. On a bien beau avoir des bons revenus, bien vivre, bien gagner notre vie, mais à force que tout augmente comme ça, les taux se mettent à gonfler, même ceux qui ont été prévoyants, là, ça va être difficile, là, tu sais, ça va être de couper dans le gras, puis là, ben, on sait ce que ça fait à ce moment-là. C'est ça, en tout cas, tout se dessine pour une crise financière, puis comme tu dis, on a vraiment pas envie de ça après ces années de noirceur-là qu'on vient de traverser, là, où on s'est isolé, puis on sait pas non plus ce qui nous attend à l'automne, là, quand on regarde ce qui se passe en Europe, on sait plus trop.
Bon. Alors, je t'arrête tout de suite parce que là, je suis trop déprimée. Il faut qu'on arrête ça. Merci beaucoup. Passe une bonne fin de semaine. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Karine.
Merci. À bientôt.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
C'est vraiment un cri du cœur qui est publié dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, dans la section « Faites la différence », une lettre écrite par différents psychologues. Ça s'intitule, cette lettre-là, « Les psychologues dans le réseau, un luxe pour le ministre Carman ». On va parler tout ça avec une des signataires de la lettre, Karine Gauthier, qui est psychologue, neuropsychologue et présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois. Madame Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Quand je dis que c'est un cri du cœur, c'est que essentiellement vous dites, écoutez, il y a des besoins criants dans le réseau, on n'est pas capable de répondre à ce besoin criant, et vous expliquez que en fait vous avez fait différentes représentations auprès du ministre Lionel Carman et qu'il les a ignorées. Êtes-vous exaspérée, découragée ou très 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 en colère ou toutes ces réponses?
Ouais, pas mal toutes ces réponses, ça varie d'un moment à l'autre, mais une chose est sûre, c'est qu'on va pas lâcher, ça c'est sûr. À notre assemblée générale, on est presque 1300 membres, hein, la coalition de psychologues, de neuropsychologues, on a voté à 99% de mettre en place des moyens de pression de façon graduelle. On est très, comme on dit, on a été patient, on est raisonnable, on va le mettre de façon graduelle, mais on va mettre des moyens de pression en place. Jusqu'à temps qu'on ait l'obtention de la solution suggérée par les psychologues qui est pas compliquée. On veut avoir une voix, on veut pouvoir avoir un regroupement de psychologues avec droit de négociation. Puis ça, on peut pas le faire avec le Conseil du Trésor, là, un syndicat de psychologues, pour pouvoir vraiment présenter les enjeux qui se passent présentement. En fait, il y a un exode énorme des psychologues vers le privé. Puis si on n'arrête pas ça, bientôt c'est l'extinction de la profession dans le réseau public. Donc c'est excessivement grave comme situation. Donc c'est le but de nos démarches depuis plus de 3 ans, là, des démarches là, je dirais intenses, beaucoup beaucoup de rencontres, beaucoup beaucoup de courriels, beaucoup de mémoires, de calculs, de sondages. On a fait tout ce qu'ils nous ont demandé là, vraiment pour présenter d'une façon très claire la situation, puis très claire les solutions qui, à mon sens et au sens des psychologues, sautent aux yeux.
Bon, alors dans votre lettre, qui est très bien écrite, qui est très claire, vous affirmez, et même le ministère de la Santé fait le même constat, il manque 40% de psychologues dans le réseau. On parle évidemment ici du public, hein, on parle de toute la discussion qu'on a en ce moment, c'est dans le public, donc des gens rémunérés par l'État pour le réseau public. Il manque 40% des psychologues dont on aurait besoin au cours des prochaines deux années. Quand on regarde le portrait actuel, c'est quoi les besoins? Mettons, combien de personnes auraient besoin d'un psychologue et n'ont pas accès à un psychologue dans le réseau public?
C'est beaucoup. Vraiment, là, il y a beaucoup de gens, puis c'est dur de mettre un chiffre, parce que ce qu'on entend avec les témoignages qu'on a, tu sais, à la coalition de la population, puis tout ça, c'est que les gens, comme ils savent que si tu veux un psychologue, c'est presque impossible dans le réseau, ils se mettent plus sur les listes d'attente. C'est pas ça qu'on recommande, là. On recommande aux gens de se mettre sur les listes d'attente, au moins, tu sais, pour avoir un jour, éventuellement, peut-être des services. Donc, c'est énormément de gens, mais on peut pas mettre un chiffre, puisqu'il y a des gens, mais il faudrait faire un sondage, honnêtement, là, peut-être léger ou quelque chose comme ça, pour vraiment aller chercher les gens dans leur maison, savoir, OK, vous, est-ce que vous avez un besoin, puis ou est-ce que votre médecin vous a dit que vous avez un besoin d'aller voir un psychologue, puis vous avez juste comme pas fait la démarche parce que vous savez que c'est presque impossible, qu'il en reste presque plus, parce que c'est ça qu'on se fait dire. En plus des gens qui sont sur les listes d'attente, mais nous, ce qu'on voit comme sur le terrain, c'est des gens souvent qui attendent là vraiment longtemps, là, tu sais, 6 mois, 1 an, 2 ans, des fois plus. Si on parle dans les écoles, il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas de psychologue. Donc, l'attente à ce qu'on tue, là, tu sais, dans le sens, c'est comme, ben, il n'y a pas de psychologue. Il y a des parents qui continuent puis qui qui vont à la, tu sais, au centre de service scolaire puis tout, mais la plupart ils ont pas de service, ces jeunes là, tu sais, fait que à la DPJ c'est la même chose. DPJ aussi, c'est très rare, tu sais, il y a presque plus de psychologues, donc c'est rare, même si les jeunes vont se demander, la famille va demander pour une psychothérapie, pour une évaluation psychologique, pour voir si c'est un TDAH, le fait qui agit de cette façon-là, quoi que ce soit, ou d'autres choses, ben là, c'est très difficile à obtenir. Et c'est grave, parce que c'est les gens qui en ont vraiment le plus besoin, là, des jeunes qui ont pas les ressources pour aller en privé, ou qui ont des problématiques qui font en sorte qu'ils ont vraiment besoin d'un psychologue dans un hôpital, dans une école, dans un CLSC, à la DPJ, par exemple.
Alors, ce serait quoi la solution? Est-ce que la raison pour laquelle il y a si peu de gens, c'est que en effet, il y a beaucoup de gens, de psychologues qui travaillaient pour le réseau public et qui, devant les conditions de travail, ont décidé de quitter puis aller au privé? Donc, pour les garder, on fait quoi? On augmente les salaires, on améliore les conditions de travail, on les respecte plus qu'on les respecte en ce moment, on organise mieux le système de santé. C'est quoi la solution?
Dans le fond, notre solution numéro un, c'est premièrement d'avoir une voix pour que nos revendications, nos préoccupations, tout ça mette directement à la table des négociations. Présentement, la coalition n'est pas un regroupement qui peut faire ça. La loi nous l'empêche. Donc, ce qu'on veut, c'est un changement de loi qui fait en sorte qu'on peut se regrouper ensemble pour avoir une voix.
Vous voulez être un syndicat? Vous voulez être un syndicat, le syndicat des psychologues du service public?
C'est ça que les psychologues veulent, ouais. Avoir un syndicat dédié aux psychologues. C'est ça qui est sorti comme solution, finalement. Parce qu'avec la structure actuelle, c'est pas une question de compétences des syndicats ou quoi que ce soit. C'est qu'on est regroupé avec plus d'une centaine de corps d'emploi. On est la seule profession que vraiment c'est une pénurie artistique. C'est-à-dire qu'il y a plein, il y a beaucoup de psychologues qui sont tous en privé, donc c'est pas une vraie pénurie dans le réseau. Il y a le ratio de psychologues au Québec qui est le plus élevé en Amérique du Nord.
Donc,
il y a
vraiment
beaucoup de psychologues. Oui, oui. Par habitant, on a le plus grand ratio de psychologues par habitant. Ouais. Donc, il y a beaucoup, mais la vaste majorité travaille en privé. Puis, on a fait des graphiques là avec les rapports annuels de l'Ordre des psychologues. Là. Il y a une augmentation de presque 600 psychologues de plus dans les 9 dernières années qui sont juste en privé. Puis, on a au moins presque 350 de moins qui sont dans le réseau, là, dans nos hôpitaux, nos CLSC, nos écoles, la DPJ, tout ça, les cégeps. Donc, il y a vraiment une tendance marquée vers le privé. Les solutions, c'est premièrement d'avoir un regroupement, un syndicat de psychologues, et après augmenter le salaire pour que l'écart qui est rendu à plus de 40% avec le privé, incluant tous les avantages sociaux, la retraite, les congés de maladie, tout ça, puis toutes les dépenses du privé et toutes les heures non rémunérées du privé. Là, c'est un calcul très, très sérieux avec les rapports d'impôts et tout ça. Donc là, on est rendu avec un écart de plus de 40%. Donc, c'est majeur. Moi, je les comprends, les étudiants, là, ils terminent, ils voient le 30$, après, ils voient le 140$ en privé. Là, je veux dire, à un moment donné, ils ont des dettes d'études, ils commencent à travailler, ils ont 30 ans versus leurs amis qui ont commencé vers 23 ans puis tout ça. Donc, je les comprends. Puis 75% d'entre eux choisissent le privé. Puis si ça continue comme ça, bien là, on s'en va vers vraiment 100%.
C'est ça. Ce que vous craignez, c'est que quelqu'un, en effet, qui finit avec son diplôme de psychologue, qui a le choix, il y a deux voies qui s'ouvrent devant lui, deux portes. La porte du public, où on sait que c'est non seulement moins bien payé, mais en plus, le réseau est tout croche, versus l'autre porte, où il va être mieux payé, plus respecté, plus de facilité à exercer son métier. Ben, si tout le monde prend la porte du privé, ben, il va manquer une génération complète de psychologues au public.
Oui, puis ça peut pas arriver, là. Ça, les conséquences sont beaucoup trop graves parce que les gens qu'on voit, là, le statut socio-économique, mais aussi, moi, des fois, j'ai des parents, les deux sont médecins, là, mais ils ont pas le choix, là, d'être là, ils arrivent quelque chose de grave, ils sont dans un hôpital. On peut pas imaginer qu'il y aura pas de psychologues. Puis tu sais, vous comprenez, on est des équipes là, hein. C'est pas tout le monde est absolument important dans les équipes. On voit là qu'il y a une volonté d'améliorer les services en santé mentale. Mais là, faut, ok, il y a une profession qui est en extinction, comme les animaux des fois sont en extinction. On va donner plus d'attention à cette profession-là. Pour l'instant, pour dire, OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec eux? Parce que les autres, oui, on a ouvert au début de la pandémie 300 postes. 91% des gens étaient d'autres corps d'emploi qui, la plupart, pratiquent pas la psychothérapie. Il y avait juste 9% de dans tout le Québec, là, il y avait juste comme 9% de ce groupe-là de nouvelles ressources que le ministre Carman avait annoncé. Si on va engager des gens pour la santé mentale, oui, il faut en engager. Mais qu'est-ce qu'on fait? Les psychologues ne viennent pas, ne sont pas au rendez-vous. Les postes sont là, mais ils restent vacants, malheureusement. Ouais.
Ah oui, donc on ouvre des postes pour justement combler cette pénurie, puis les gens ne postulent pas parce que, justement, les conditions de travail ou le système lui-même est malade et déficient. J'aime beaucoup votre image des psychologues du public qui sont une espèce en voie d'extinction. Parlons concrètement des conséquences que ça a sur la population. Quand, mettons un enfant de 8 ans qui a un problème psychologique, si il se met sur une liste d'attente puis que ça prend 3 ans avant qu'il soit capable de voir un psychologue ou un neuropsychologue, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence, ce 3 ans d'attente, Mme Gauthier?
Ça peut être majeur. Là, si on pense juste, tu sais, je suis une maman aussi, juste aux effets sur les parents de voir son enfant, tu sais, de son enfant qui va pas bien, mettons, qui fonctionne pas à l'école, qui a des problèmes de comportement, ou qui a des problèmes au niveau social, ou qui se referme sur lui-même. Tu sais, il y a des jeunes de 8 ans là qui ont des dépressions là, tu sais, puis qui ont même des idéations suicidaires. Puis ça, je veux dire, l'effet sur le jeune est immense, puis peut faire en sorte que ça va devenir de plus en plus complexe et de plus en plus sévère comme problématique, et l'effet sur la famille, sur les parents, sur les frères, les sœurs, en plus, hein, il y a des parents qui vont vraiment, beaucoup de parents là qui sont excessivement affectés, tu sais, qui sentent que leur enfant va pas bien, mais qui ont pas, je dis, puis c'est normal là, à un moment donné, ils peuvent pas faire
les ressources
neuropsychologiques, ils sont pas neuropsychologues, ils sont pas psychologues, ils peuvent pas faire la psychothérapie, c'est pas écouter quelqu'un puis donner des conseils là, pas du tout là, c'est vraiment quelque chose qui prend des années d'études à bien maîtriser, puis ça, c'est un acte réservé par la loi, donc on peut pas s'attendre. Quand l'enfant présente une problématique de santé mentale, ben là, il y a beaucoup de détresse dans l'entourage aussi. Puis chez le jeune,
c'est important d'en parler, ouais.
Oui, c'est important d'en parler parce qu'on n'en parle pas assez, je pense. Puis le jeune, lui, ben la situation peut se chroniciser. Il peut commencer à se démotiver, mettons, par rapport à l'école. Puis tu sais, même jeune, on peut commencer à décrocher de l'école dans le sens que, ok, ben je fais plus d'efforts, je fais plus. Tu sais, on comprend pas qu'est-ce qui passe, puis on l'aide pas, ben il peut avoir plein de conséquences ou développer des problèmes, tu sais, de plus de comportement, puis ça qui peuvent mener éventuellement plus vers la délinquance, par exemple, ou vers l'utilisation des substances plus tard. Donc il y a vraiment c'est ça, des effets qui peuvent être qui peuvent devenir, tu sais, un problème comme une boule de neige dans le fond qui grossit.
Oui, c'est ça. Une onde de choc. Une onde de choc, c'est pas juste le jeune lui-même, c'est toutes les conséquences aussi sur l'entourage. Les chiffres sont terrorisants que vous citez dans votre lettre que vous avez signée conjointement avec d'autres personnes du milieu des psychologues du réseau public. Donc, les chiffres que vous donnez sont les suivants. Augmentation de 23% des tentatives de suicide chez les adolescentes, 60% des hospitalisations pour les troubles alimentaires, 28% de la consommation d'antidépresseurs chez les jeunes de 14 ans et moins. Madame Gauthier, si vous aviez Lionel Carman, mettons que Lionel Carman est en train de nous écouter en ce moment, en une minute, vous devez le convaincre, vous lui dites quoi?
C'est vraiment avec ces données-là, il y a des problématiques de santé mentale, ça fait aucun doute, qui sont excessivement sévères. C'est urgent d'agir puis de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait pour aider ces jeunes-là, puis qu'est-ce qu'on fait pour le traitement de ces troubles-là? Parce qu'il y a la prévention, le support, l'intervention de crise, la gestion de crise, puis il y a le troisième point, c'est le traitement. Puis là, présentement, c'est dans l'angle mort, c'est dans votre angle mort, M. Carman. qu'est-ce qu'on fait pour traiter ces jeunes-là, pour pas que ça se répète, pour pas que la tentative de suicide se répète. Oui, il y a le 811, oui, il y a les lignes d'écoute qui sont absolument importantes, oui, il y a l'urgence, oui, il y a les hospitalisations, mais qui va les traiter, qui va faire la psychothérapie pour dire, OK, ça se répète pas. Puis en plus, ça coûte une fortune au Québec. Nous, on a fait notre rapport économique à la demande du gouvernement, puis on a vraiment fait des calculs rigoureux. On pourrait sauver 228 millions par année en incluant l'embauche de 450 psychologues avec une augmentation de 30 % de salaire. Là, ça inclut ça dans nos calculs. Donc, c'est un retour sur l'investissement de 228 millions. Donc, il y a le côté humain qu'on vient d'expliquer, qui fait en sorte que là, on peut pas laisser ces jeunes-là avec ces problématiques sans les traiter, parce que là, après, ils ont plein d'années devant eux, là. Tu sais, c'est le temps, il y a des fenêtres d'intervention, faut intervenir, et en plus, si ça, c'est pas suffisant pour convaincre quelqu'un, ben là, on peut regarder l'aspect financier. Ça peut pas, personne peut être contre ça non plus, de dire, OK, ben on sauverait des millions par année, tu sais, plusieurs centaines de millions par année au Québec.
On va devoir se quitter. Ouais, oui, on va devoir se quitter là-dessus parce que je vous avais donné une minute, vous en avez pris deux, mais c'est pas grave.
Ah, désolée!
Non, mais je vous taquine parce qu'habituellement, quand on va chez le psychologue puis que l'heure de consultation est terminée, le psychologue nous regarde droit dans les yeux et nous dit très gentiment, ben c'est tout le temps qu'on avait, on se voit la semaine prochaine. Donc, je vais être obligée de faire avec vous comme les psychologues font avec nous quand on va les consulter. Rappelez à tout le monde qu'il n'y a aucune honte à consulter un psychologue quand on arrive à en trouver un. Merci beaucoup pour votre plaidoyer pour les psychologues dans le réseau public québécois, Karine Gauthier. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes psychologue, merci, neuropsychologue et présidente de cette fameuse coalition. Et il y a cette lettre dans le journal de ce matin, donc co-signée par plein d'autres intervenants dans le réseau aussi public. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
On sait que c'est le bordel pour les passeports, c'est extrêmement compliqué, des délais absolument épouvantables. On sait que c'est aussi pas mal le bordel pour l'attente aux douanes. On a vu circuler beaucoup de problèmes aussi, entre autres à l'aéroport Pearson, avec le bordel dans différents domaines. Est-ce que ça va être le bordel voyager cet été? Excusez-moi l'expression, mais vraiment, c'est à ça que ça ressemble. Ben, je vais poser la question à Moscou Côté, il est président de l'Association des agents de voyage du Québec. Monsieur Côté, bonjour.
Bonjour, Madame Durocher.
Bordel, le mot est peut-être un peu fort, mais on comprend. Ça peut être le bordel, le cauchemar. Mettez ça comme vous voulez. Comment ça se passe sur le terrain? Quand on est un agent de voyage au Québec, est-ce que on reçoit plein d'appels de clients paniqués à l'idée de voyager?
Paniqués, non, mais il y a beaucoup d'inquiétudes, Madame Durocher. Puis c'est un peu à ça qu'on sert, rassurer les gens, leur donner l'information nécessaire pour qu'ils puissent faire leurs arrangements de voyage le plus facilement possible. Alors, les gens nous appellent et disent, ben là, si j'ai pas mon passeport, qu'est-ce qui arrive? La réponse est simple. Pratiquement 99 % des pays, c'est pas de passeport, tu pars pas. C'est aussi simple que ça, là. Par contre, il n'y a pas eu beaucoup d'annulations dues au manque de passeport parce que les gens peuvent aller 24 ou 48 heures avant leur départ avec la preuve du voyage en main, payant un supplément, là, une cinquantaine de dollars, ils ont leur passeport le jour même. Donc, à cause de ça, les gens n'annulent pas, mais je suis certain qu'il y a des gens qui ne réservent pas, sachant qu'il va peut-être avoir une complication au niveau du passeport plus tard.
Ah, ça, c'est intéressant. Donc, c'est pas nécessairement des gens qui ont déjà un voyage et qui l'annulent, mais c'est des gens qui, lisant les journaux, regardant la télé, écoutant la radio, savent qu'il y a un problème et se disent, ben, à ce compte-là, si je cours le risque de pas pouvoir partir, j'aime mieux tout simplement ne pas acheter un voyage.
Oui, c'est exact. C'est l'impression qu'on a là, auprès des voyageurs. Les gens qui ont acheté, on leur demande, vous avez un passeport? Ils disent oui ou ils disent non, mais je sais qu'il y a un délai. Puis je sais que ça va être minimum 24 heures, là, juste avant le départ, 24-48 heures, que je vais pouvoir aller faire ma demande. Donc, les gens sont conscients de ça. Et ceux qui veulent voyagent quand même. Mais c'est normal de supposer qu'il y a des gens là, qui ne réservent pas pour le moment quand ils voient tous les délais là, attribués au bureau des passeports.
D'accord. Ah, donc, moi, je trouve ça intéressant ce que vous venez de nous dire, parce que je ne pensais pas que, à cause justement de l'espèce de cauchemar actuel et des délais absolument épouvantables, je ne pensais pas que l'option En effet, 24-48 heures en payant un supplément étaient encore disponibles parce que les employés étaient trop débordés. Et surtout, je ne savais pas que ça coûtait si peu que 50 $, parce que si on a un voyage qui coûte plusieurs milliers de dollars ou plusieurs centaines de dollars, 50 $ pour avoir son passeport à la dernière minute, c'est peu finalement.
Oui, voilà, c'est ça. T'sais, comme vous le disiez, sur un voyage de plusieurs milliers, 50 $, il n'y a pas personne qui ne réservera pas et qui ne voyagera pas parce qu'il est à 50 $ serré. Là. À ce moment-là, je pense qu'il y a peut-être d'autres choses, d'autres dépenses plus prioritaires là, qui pourraient l'intéresser que le voyage, qui somme toute, pour la majorité des voyageurs, reste un luxe.
Oui, ben non, c'est sûr, c'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Ce qui est frustrant quand on regarde ça, Monsieur Côté, c'est quand même le fait que tout ce goulot d'étranglement des passeports, ce goulot d'étranglement qui fait qu'il manque d'employés aux douanes, et donc ces difficultés, ces temps d'attente, ça arrive au moment où tout le monde a le goût de recommencer à voyager parce que ça fait 2 ans qu'on en a été privé. Il y a comme une frustration qui est double, parce que si ça faisait 2 ans qu'on voyageait tout le temps, puis que là, il y avait des désagréments, on se dirait, bon, ben c'est pas grave, parce que ça fait des années qu'on voyage, mais là, c'est frustrant, parce que ça fait 2 ans qu'on peut pas voyager.
Oui, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que au niveau du gouvernement fédéral, les règles COVID s'appliquent toujours. À savoir, on ne peut pas rentrer dans un aéroport canadien si on n'a pas les 2 doses de vaccin. Non seulement comme employé, mais comme voyageur même. Ensuite, quand je suis passé au complexe Guy Favreau là, cette semaine, puis encore les pancartes, là, les portes de gauche, c'est pour la sortie seulement, les portes de droite, c'est pour l'entrée seulement, avec des pancartes qui disent « ne rentrez pas si vous avez des symptômes, si vous avez de la fièvre, si vous avez de la toux ». C'est exactement comme c'était là au mois de septembre 2021 ou 2020. Il n'y a rien qui a changé par rapport aux règles. Donc, les employés des compagnies aériennes doivent encore être doublement vaccinés. Ça fait que certains employés ne sont pas au poste. Il y a également, dans la fonction publique, au niveau du bureau des passeports, le télétravail est encore permis. Alors, je comprends pas la logique, là. Je veux dire, est-ce que les gens ont une imprimante à passeport chez eux? J'ose croire que non. mais je vois pas pourquoi. Parce qu'on regardait les chiffres que le ministère de Pablo Rodriguez a sorti, qui est en charge du bureau des passeports. Il y a plus d'employés en 2022 qu'il y en avait en 2019. Et il y a un peu moins de demandes de passeport. Et quand on le met le même mensuel, là, c'est pas comme s'il y avait un mois là, qui débordait le nombre de demandes. Ouais. Donc, comment est-ce qu'il peut avoir un délai plus long quand vous avez plus d'employés et un peu moins de demandes que vous aviez en 2019? C'est vraiment un mystère et boule de gomme, celle-là.
Ouais, c'est ça, moi non plus, je la comprends pas, mais en fait, quand on était jeune, on se faisait dire les voies du Seigneur sont impénétrables. Je pense qu'on devrait corriger ça puis dire les voies du gouvernement fédéral sont parfois impénétrables aussi. On a juste à penser au système de paye Phoenix qui est aussi un gros bordel. Bon, il faut parler des files d'attente au comptoir des lignes aériennes, à la sécurité, aux douanes, à l'aéroport Pearson de Toronto. Est-ce que ça signifie que quand on fait une réservation, on doit éviter à tout prix, même ne serait-ce qu'une escale par Toronto, parce que c'est trop cauchemardesque?
Oui, je suis d'accord avec ça, cet annoncé-là. Et à tout prix éviter Pearson si possible, parce que présentement, je veux dire, même dans la dernière semaine du mois de... la première semaine du mois de juin, Air Canada, je disais qu'ils avaient annulé jusqu'à environ 10% de leurs vols, justement à cause des délais et le manque de personnel là, navigant par rapport à ça. C'est beaucoup moins à Montréal, c'est moins significatif à Montréal. Mais oui, éviter Pearson serait une bonne idée. Également, pour la semaine en cours, là, la semaine suivante, éviter peut-être Paris également, à moins que ce soit la destination finale, parce qu'il y a toujours le risque de grève accrue là, en France. Par rapport aux transporteurs et aux aéroports.
Oh, vous me dites ça, mais moi, je m'en vais à Paris la semaine prochaine. Vous êtes en train de m'annoncer en direct à la radio une très, très, très mauvaise nouvelle, M. Côté. J'ai-tu le droit de commencer à pleurer tout de suite? Non, écoutez, je fais pitié pour personne. Je vais m'arranger avec mes affaires. Mais donc, il faut tenir compte aussi des difficultés, pas juste au Canada, mais à notre destination. Il peut y avoir, en effet, des délais épouvantables. C'est ça que vous nous dites.
Oui, voilà. Si votre destination finale, Mme Durocher, c'est Paris, ça ne sera pas un problème. Ça va peut-être être comme 20, 30, 40 minutes de plus avant d'avoir notre bagage. un peu plus long à la douane, on perd une quinzaine de minutes, mais ultimement, vous, il n'y a pas de correspondance que vous pouvez manquer. Donc, à ce moment-là, c'est pas un problème. Ce que je disais d'éviter, c'est Paris en tant que point d'escale, si disons, on s'en va en quelque part en Allemagne, et faire un Montréal-Paris, Paris-Düsseldorf, c'est peut-être la route à éviter, là, faire un Montréal-Frankfurt, Frankfurt-Düsseldorf, il y aura probablement moins de problèmes par rapport à ça. Mais quand c'est la destination finale qui est Paris, oui, ça va être une demi-heure plus que normal, mais c'est, je veux dire, c'est pas, y a pas d'escale qui va être ratée à cause de ça, non.
Ouais, je sais pas si vous avez vu la caricature de mon collègue Y dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est sa case de caricature est divisée en deux. Puis à gauche, c'est une dame qui est prête à partir en vacances parce que ça fait 2 ans qu'elle est pas partie, donc elle a son bikini qui est prêt et tout ça. Enfin, je peux voyager. Et la case de droite, ben elle est sous la pluie dans une longue liste d'attente pour passer aux douanes. C'est un petit peu ça, la situation.
Oui, ce qui arrive, c'est que pour rentrer au Canada, on doit avoir l'application ArriveCan, de télécharger le formulaire de rempli pour pouvoir présenter le code QR au douanier. Le fait qu'on ne soit plus obligé d'avoir un test avant le retour au Canada, mène certains voyageurs à croire que l'ArriveCan n'est plus nécessaire non plus, juste la preuve de vaccination. C'est pas le cas. Alors ça crée un retard additionnel au niveau des contrôles douaniers. Et au-delà de ça, il y a le fait que beaucoup de gens se sont mis à voyager dans les derniers mois et il y a moins de personnel que souhaité. Donc, tout ça mis ensemble, oui, c'est la recette parfaite pour un retour un peu moins plaisant qu'on l'aurait espéré. Somme toute, par contre, on est environ au niveau des voyageurs, on est environ à 70% retour à la normale, ouais, de ce qu'on avait pré-COVID. Alors, oui, il y a des destinations comme Paris, beaucoup de gens y vont, mais on a cinq vols par jour présentement, alors qu'on en avait 8 en 2019. Donc, vous comprendrez qu'il y a quand même moins de voyageurs, et une chance, parce que sinon, les délais seraient encore plus longs. Hein.
Tout à fait. Mais je veux revenir sur ArriveCan. Ça sert à quoi, ArriveCan? Est-ce que vous le savez? Je veux dire, cette application-là qu'on doit télécharger sur nos téléphones intelligents, qu'on doit remplir dans les 72 heures avant de revenir au Canada, vous nous dites qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle n'est plus nécessaire. Or, elle est extrêmement nécessaire. Mais entre vous et moi, Monsieur Côté, elle sert à quoi? Qui reçoit ces renseignements-là? Qui, vu qu'on n'a plus besoin de prouver de faire un test, elle sert à quoi, ArriveCan?
C'est une très bonne question. La réponse qu'un de mes collègues m'a dit, et là, je fais juste le citer, il me dit qu'au début de la crise, le gouvernement fédéral était perçu comme ils n'ont pas fermé assez vite les frontières et arrêté les vols et ces trucs-là. Donc, ArriveCan sert à rehausser l'image du gouvernement, qu'ils font quelque chose de concret pour combattre le COVID. Alors que c'est pas remplir une application sur son téléphone ou jouer un jeu vidéo qui va faire qu'on est plus sécuritaire. Donc, par rapport à ça, ce que ça fait, bon, il faut bien sûr scanner et montrer nos deux preuves de vaccin. Il faut avoir eu les deux vaccins.
Oui.
C'est un peu à ça que sert ArriveCan. Et quand on va le présenter au douanier, si l'ArriveCan est d'une autre couleur, disant qu'on n'a pas le droit, à ce moment-là, on va être quand même obligé de faire une quarantaine de 14 jours avec un test 5 jours après l'arrivée.
C'est ça.
Qu'il soit positif ou négatif, il faut rester isolé. Donc, c'est quasiment rendu obligatoire d'abord pour rentrer dans l'aéroport au Canada et prendre un vol pour quitter le Canada, ça prend les vaccins. Mais pour rentrer, si vous n'êtes pas vacciné, il y a toujours 2 semaines de quarantaine. C'est toujours les règles fédérales, comme je disais tout à l'heure, qui sont les mêmes qu'on a connues pendant la pandémie, malgré le fait que le gros de la pandémie, ou enfin le gros des mesures sanitaires sont
et derrière nous.
Tous les autres gouvernements. Oui, voilà, tous les autres gouvernements les ont laissés tomber, à l'exception du gouvernement fédéral.
Mais c'est ça. Donc, l'exception canadienne, hein, une société distincte, la société canadienne qui se démarque sur la scène internationale. En effet, on est passé de « on est beaucoup trop complaisant, puis on est beaucoup trop ouvert, puis on ferme nos frontières beaucoup trop tard » à « ben on laisse des mesures qui maintenant sont soit désuètes ou obsolètes, qui sont dépassées par la réalité ». Ben écoutez, on va quand même se souhaiter bon voyage. Je pense que ça reste quand même si c'est un luxe, ça fait du bien entre les deux oreilles de continuer à voyager. Puis aussi, il y a plein de gens qui voyagent par obligation, que ce soit par affaires ou des obligations familiales. Donc, c'est important. En tout cas, le conseil peut-être, c'est de prendre notre mal en patience, hein, Monsieur Côté?
Oui, de un et de deux, de consulter son agent de voyage qui va vendre le billet d'avion au même prix
que
l'Internet ou peu importe une autre façon, et va vous donner des conseils et va être aussi en mesure de vous répondre toutes les exigences. Parce que, exemple, vous parliez de la France. La France, ça prend une dernière dose qui date de moins de 9 mois avant l'arrivée. Donc, même si vous avez été pleinement vacciné, vous avez une dose de rappel. Si la dose de rappel date de plus de 9 mois de la date prévue de rentrer en France, vous allez être refusé. Donc,
c'est important de le rappeler.
Les gens réalisent pas. Voilà,
oui, on va se quitter là-dessus, Monsieur Côté. Malheureusement, c'est la fin de l'émission. Je vous remercie, Monsieur Côté. Moscou Côté, président de l'Association des agents de voyage du Québec. Merci à Jean-François Roy à la mise en onde de la réalisation. Merci à Frédéric Houle et Charlotte Duquette à la recherche. Et je vous souhaite un excellent week-end. Peut-être que vous partez en voyage. On se retrouve lundi.
Cube Radio.